Émission L'Instant Nature, une émission proposée tous les 15 jours par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement Caroli Pontois. Cette émission est animée par Xavier.
Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Pisalène. Excellente après-midi, c'est Pisalène que vous écoutez tout de suite, c'est Xavier, avec l'Instant Nature. Bonjour Xavier.
Bonjour Edwige, bonjour à toutes et à tous. Et voilà la 13e émission de notre saison 2024-2025. Émission marquée au dehors par un printemps somme toute raisonnable, des petites pluies mais du soleil et des lilas en pleine floraison qui sont venus remplacer les forsythias en attendant les seringas dans quelques semaines. Le muguet qui se faisait très très discret est sorti presque brutalement de terre ces jours derniers et commence déjà à fabriquer ses petites clochettes. Bref, de quoi nous mettre de bonne humeur. Et il en faut, parce que toute l'actualité n'est pas forcément d'aussi belle humeur. Alors, on va commencer par un rappel que nous avions déjà lancé il y a 15 jours. Si vous habitez à proximité des centres d'enfouissement technique anciens et actuels et du centre de compostage de Moulins-sous-Touvent et que vous en subissez les nuisances, les associations Rencontres du patrimoine de Tracy-Leval, Tracy Environnement de Tracy-Lemont et Notre ASEC de Carlepont vous invitent à une réunion publique d'information et d'échange sur les pollutions environnementales et les odeurs pestilentielles qui peuvent être générées par ces trois installations. C'est ce soir à 18h, salle polyvalente Victor de l'Aigle à Tracy-Lemont. Venez nombreux, vous pourrez y entendre et voir sur un montage de diapos des informations importantes et nous attendons vos témoignages. Donc, ce soir, le plus nombreux possible, soyez là à 18h précise à Tracy-Lemont, salle Victor de l'Aigle. Alors, on va commencer, comme souvent, par les humeurs et vous connaissez maintenant combien les mégots répandus dans l'espace public et la nature me sont insupportables, par la pollution des eaux de nos rivières qu'ils génèrent, par l'empoisonnement des oiseaux qui récupèrent ces mégots pour tapisser leur nid, ou par d'autres nuisances à la biodiversité. Avec le beau temps de ces derniers jours, les trottoirs de Noyon sont infestés par des milliers de mégots en centre-ville, et je n'exagère pas. Or, les cendriers, le balayage quotidien par les riverains responsables, notamment les gens qui possèdent des restaurants, des cafés, des bars, c'est possible. Mais il y a autre chose. J'ai constaté récemment que les parcs de stationnement de la zone commerciale de Noyon étaient souillés de déchets divers, emballages, mouchoirs en papier, bouteilles vides. Le bord des routes, le long des voies ferrées, ce sont aussi des tonnes de déchets qui s'accumulent. Et ne parlons pas des décharges sauvages. Depuis 6 ans, une décharge sauvage s'est développée aux abords d'Ory-la-Ville, dans l'Oise, au sud de l'Oise, au grand désespoir des habitants de la ville. Il y a 1 an, élus et habitants organisaient, comme tous les ans, une marche pour alerter les pouvoirs publics. Les déchets s'étendent sur 1 hectare. Caché dans un bois à l'écart de la commune. Des pneus, des bidons qui contiennent on ne sait pas quoi, des épaves de véhicules, tout ça entassé en pleine campagne isarienne. 6 ans d'accumulation, 6000 mètres cubes de déchets. Les habitants, la mairie et l'association Le Roseau, dont nous parlons régulièrement et à laquelle la SEC adhère, ce regroupement indépendant d'organismes de sauvegarde de l'Oise, tout ce monde a pris les choses en main dès la découverte de cette décharge. Mais en 2019, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Senlis. France 3 nous le rappelle. Depuis, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Et pourtant, le département de l'Oise bénéficie de nombreuses installations professionnelles pour permettre la gestion des déchets, qu'ils proviennent des ménages, des entreprises privées ou des organismes publics. Il y a le centre de tri de grande capacité et le centre de valorisation énergétique de Villers-Saint-Paul, qui sont exploités par le syndicat mixte du département de l'Oise. Il y a des recycleries, il y a des déchetteries, une cinquantaine à la disposition des habitants. On ne devrait pas retrouver de déchets dans la nature. Eh bien, toutefois, malgré ces installations performantes et accessibles, les incivilités demeurent et le problème des dépôts sauvages n'épargne aucune partie du département. On a parlé d'Aury-la-Ville. Eh bien, l'ancienne décharge de Santine-Néry est surveillée de près en raison de dépôts de fûts contenant des produits toxiques dans les années 60-70. Ça ne date pas d'hier. Les infrastructures routières du département sont impactées par cette pollution avec des chaussées fissurées, déformées et des résurgences de produits. Mais de manière plus diffuse se pose aussi le problème des déchets abandonnés sur les trottoirs, le long des routes, dans le milieu naturel. Dans les forêts, si vous vous promenez en forêt, ici ou là, pof, un tas d'ordures. En 2019, l'ADEME avait estimé qu'il y avait 21,5 kg de déchets sauvages, tous confondus, mégots, ordures ménagères, encombrants, qui étaient abandonnés par an et par habitant en France. Hein, 24 kilos par habitant. Comme Edwige et moi-même, nous ne sommes certainement pas parmi ceux qui en abandonnons, ça veut dire qu'il y en a qui en abandonnent beaucoup plus. Et pas plus tard qu'hier, lors de la brocante de Carlepont, où il faut dire que les participants et les visiteurs ont été relativement propres. Mais j'ai entendu une maman disant à son gamin qui avait en main un ballon à gonfler, il est sale, jette-le par terre. Comment éduquer nos enfants à respecter l'environnement, la nature, nos rues, si les parents, les premiers, disent à leurs gamins de jeter leurs ordures par terre sur une rue de Carlepont, en pleine rue. Donc, chers amis auditeurs, soyez les propagateurs des bonnes mesures, incitez vos amis, vos parents, vos enfants à ne rien jeter en dehors des poubelles ou des endroits où on peut apporter les déchets. Et nous allons passer au brève. Alors, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux dont nous parlons souvent, qui est un organisme indépendant mais qui travaille énormément pour la nature, s'intéressait ces jours derniers au gypaète barbu. Alors, c'est un oiseau, c'est un vautour. Les vautours ont eu longtemps très mauvaise réputation et pourtant cet oiseau nettoie la nature parce que le vautour se nourrit de carcasses d'animaux morts et évite ainsi que se répandent les microbes, les bactéries et autres saletés que ces cadavres d'oiseaux, ces cadavres d'animaux morts généralement pour cause de maladies ou autres, puissent infecter notre environnement. Donc les vautours sont des animaux utiles. En principe, ils ne s'attaquent pas à l'homme, ils ne s'attaquent pas au bétail vivant et ils font un travail de déboueur, si je puis dire, fort utile. Alors le gypaète barbu, c'est l'une des quatre espèces de vautours présentes en France, nous dit la LPO. Ce charognard emblématique des montagnes se nourrit presque exclusivement d'os récupérés sur des carcasses d'animaux sauvages ou d'élevage. Il a failli disparaître du territoire français au cours du siècle dernier en raison du braconnage et de l'empoisonnement. Mais il y a eu d'autres animaux qui ont été victimes de pareilles procédures. Pensons jadis aux chouettes que l'on clouait sur les portes des granges, alors que la chouette ou le hibou sont des animaux éminemment utile. Et puis, il faut bien voir qu'il s'agit d'un équilibre naturel. Il y a des chaînes, et si on supprime un élément de la chaîne, on brise toute la chaîne alimentaire et tout l'équilibre de la nature. Alors, ce gypaète, les populations restent aujourd'hui fragiles en France, avec seulement 88 couples répartis entre les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Et il n'y en a que 4 en Corse où le nombre continue de diminuer. Donc pour éviter sa disparition dans l'île de Beauté, le parc naturel régional Parco di Corsica s'est engagé aux côtés de, alors excusez ma prononciation de l'anglais comme d'habitude, la Vulture Conservation Foundation, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Life Jive Rescue, et des poussins en provenance d'un réseau européen d'élevage sont ainsi relâchés dans l'espoir d'augmenter les effectifs de l'île et rétablir le rôle de nettoyage du JPAET dans les écosystèmes corses. La LPO coordonne un projet similaire dans l'Hexagone et partage naturellement son expertise. Il y a un film documentaire réalisé par Martin Van Bonn dans le respect de la tranquillité des animaux filmés. Ça s'appelle L'Altore, le nouvel envoi du JPAET Corse, et ça nous fait découvrir le plus grand rapace de France et le travail des agents qui œuvrent à sa sauvegarde. Alors vous pouvez le regarder, le revisionner sur YouTube. Hein. Donc ça s'appelle L'Altore, A-L-T-O-R-E, et en tapant ça sur un site de recherche sur Internet, sur un moteur de recherche, vous devriez trouver. Autre brève, on a vu sur le site France Nature Environnement une fiche qui s'appelle « Protéger les phoques de la baie de Somme ». Donc la baie de Somme, ça intéresse une partie de nos auditeurs, oui. Que ce soit des gens de la Somme qui reçoivent encore Radio Puis Haleine, ou des gens de l'Oise qui ont une petite maison sur la baie de Somme et qui vont y passer des week-ends ou des vacances. Alors qu'est-ce que nous dit France Nature Environnement ? Chassés jusqu'au milieu du XXe siècle, les phoques avaient fini par disparaître de la baie de Somme. Ce n'est qu'en 1986 qu'ils ont commencé à reconquérir les côtes picardes avec l'installation d'une colonie reproductrice de phoques veaux-marins. Plus récemment, des phoques gris se regroupent et se reproduisent également dans la baie. Entre 500 et 600 phoques veaux-marins se réunissent l'été en baie de Somme pour y mettre au monde en moyenne 175 bébés. Ça attire évidemment les touristes, mais ça nécessite que les touristes aient un certain respect de ces phoques et ne les effraient pas. Donc France Nature continue. Pour conserver une population viable et permettre aux phoques d'accomplir leur cycle de vie le plus naturellement possible, il est nécessaire de veiller à ce qu'ils ne soient pas dérangés par la présence humaine. Les dérangements peuvent en effet conduire les mères à abandonner leurs petits avant sevrage. Depuis plus de 30 ans, Picardie Nature et le Chêne. Alors le Chêne, c'est le centre d'hébergement et d'études sur la nature et l'environnement. Ils étudient la colonie de phoques de la baie de Somme et veillent à maintenir un environnement accueillant. Chaque année, les deux associations forment des dizaines de bénévoles pour sensibiliser le public au respect de la tranquillité des phoques. Donc, on n'empêche pas les gens de les regarder, mais pas crier, pas s'approcher, etc. Et des gens sont formés pour un accueil du public. Il faut organiser son, lorsqu'un jeune phoque abandonné est identifié, il faut organiser son évacuation vers un centre de sauvetage et assurer sa prise en charge jusqu'à ce que son état de santé lui permette de retourner dans son habitat naturel. Alors que la colonie croît, les capacités de prise en charge des phoques doivent se développer également. Donc il y a surveillance de la colonie, formation de dizaines d'éco-volontaires tout au long de l'année, sensibilisation des touristes aux bons gestes, développement des capacités d'accueil des centres de soins, organisation d'opérations de sauvetage lorsque c'est nécessaire. Et donc ils font un appel qui est le suivant. Vous vivez non loin de la baie de Somme et souhaitez vous impliquer dans la protection des phoques, consultez le site internet de Picardie Nature et du Chêne et vous découvrirez les missions qu'on vous propose d'accomplir et les formations qu'on peut vous donner. Eh bien, tout cela nous amène à notre petite pause de musique classique. Et aujourd'hui, Tchaïkovski, il s'agit de Mozartiana. C'est une suite pour orchestre numéro 4, opus 61. Et c'est le deuxième mouvement. Et pour faire plaisir à Edwige, c'est un mouvement gai, c'est un allegro. Mouvement joyeux. Thank you. Voilà, c'était donc...
Jusqu'au bout.
C'était donc Tchaïkovski. Alors, si vous aimez, c'est plus moderne que ce qu'on a pu écouter ces dernières émissions, je vous recommande son concerto pour piano et son concerto pour violon. Il n'en a pas fait beaucoup comme Mozart ou Haydn, des concerti, mais ces deux-là sont absolument exceptionnels. J'aime beaucoup. Malheureusement, les morceaux sont très longs et donc on pourra difficilement vous en faire écouter lors de nos prochaines émissions. Et on revient à nos brèves et on a sur le site de France Info du 17 avril appris que la France produisait actuellement plus d'électricité qu'elle n'en consomme, obligeant les producteurs à payer pour exporter leur surplus. Et le 17 avril, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE confirmait ces informations. Alors qu'en 2022, lors de la crise énergétique, RTE, donc c'est le réseau de distribution d'électricité, avait lancé une alerte rouge appelant les Français à la sobriété, tout comme le gouvernement en place à cette époque, la tendance s'est complètement inversée. Déjà, en 2024, 88,3 TWh, alors je ne saurais pas vous dire combien de dizaines de milliers de kWh ça fait, mais ça fait beaucoup, avaient dû être exportés faute d'être utilisés. L'électricité ne peut pas être stockée. Actuellement, on n'a pas les moyens. Il faudrait installer des gigantesques batteries, mais écologiquement, ça ne serait pas génial. Pourquoi cette situation de surproduction ? Eh bien, c'est que vous autres, c'est que les Français ont intégré la notion de sobriété énergétique et utilisent, gaspillent moins d'électricité depuis 2 ans. Dans le même temps, la production des énergies renouvelables a augmenté avec un pic entre midi et 16 heures, notamment pour le solaire. Cette surproduction d'électricité coûte cher aux producteurs parce qu'il faut les couler et économiquement, ça paraît bizarre, mais pour les couler, ben, il faut payer et ils ont perdu 80 millions d'euros l'année dernière. Alors, il y a des solutions et surtout pas de recommencer à consommer, bien sûr. Il faut continuer. C'est très très bien qu'on ait réduit notre production d'électricité. C'est aux producteurs de gérer. Et justement, l'intérêt des éoliennes, à condition qu'on les installe au bon endroit, ben c'est qu'elles peuvent travailler quand on a besoin d'électricité, puis qu'elles peuvent être arrêtées immédiatement, sans conséquence, quand on en a trop. Donc, la lutte systématique contre les éoliennes n'est pas bonne. Il ne faut pas installer d'éoliennes dans les endroits où écologiquement et humainement ça pose problème, mais les éoliennes qui sont au bon endroit sont utiles. Il y a trop d'électricité, on ferme. On ne peut pas arrêter une centrale thermique ou une centrale nucléaire. Les capteurs d'énergie solaire, c'est pareil, on ne peut pas les arrêter. Par contre, les éoliennes, ça peut être la marge de manœuvre. Et puis, il y a aussi une autre solution, c'est de changer les heures creuses. Au lieu de mettre les heures creuses la nuit où les panneaux solaires ne fonctionnent pas, eh bien, pourquoi pas mettre les heures creuses entre 14 et 16 heures, là où on a trop d'électricité. À ce moment-là, on dirait aux gens, ben, c'est là que vous faites marcher vos machines à laver, c'est là que vous lancez telle ou telle opération, aux industriels de prendre l'électricité maximum dans ces heures-là, etc. Donc, à étudier, à suivre, mais surtout, restez, vous, économe d'énergie, c'est essentiel pour l'avenir. Alors, autre information brève, le BRGM, c'est le Service géologique national, communique tous les mois sur le niveau des nappes phréatiques, c'est-à-dire nos réserves en eau potable et en eau d'arrosage. Le 1er avril dernier, il constatait « La situation des nappes phréatiques s'est progressivement dégradée en février et mars 2025, mais reste excédentaire. 52% des points d'observation sont au-dessus des normales mensuelles. » Donc, on a bien renouvelé la ressource en eau. Ça, c'est bon. Ceci dit, c'est un peu moins que l'année dernière où 58% des points d'observation à cette date étaient au-dessus des normales mensuelles. Mais la vidange va se généraliser dans les mois qui viennent. Et de toute façon, les situations sont contrastées selon les conditions météorologiques, l'état de la végétation et la réactivité de la nappe, hein, donc selon les régions. Hein. Alors le sud-est a bénéficié de pluies efficaces excédentaires et observe des niveaux en hausse, mais les niveaux des nappes du Roussillon et des Corbières restent trop bas. À partir d'avril, la recharge devrait être seulement ponctuelle et peu intense, parce que même quand il pleut, c'est la végétation qui absorbe l'eau, ça ne rentre pas dans le sol. Les prévisions du printemps et de l'été de cette année sont optimistes pour les nappes du bassin parisien, sont plus contrastées pour le reste du territoire. La fin de la recharge hivernale déficitaire risque d'impacter les nappes réactives sur les prochains mois. Ceci dit, dans les Hauts-de-France, le niveau des nappes est encore très très haut, mais ne gaspillons pas, ne polluons pas nos eaux. C'est pas non plus, comme pour l'électricité, une raison pour en utiliser trop. Alors sinon, le Télérama du 9 avril dernier nous a fait découvrir Florent Piard. C'est un défenseur d'une agriculture paysanne. Il a ouvert plusieurs restaurants à Paris et dans le Morbihan. Et dans ces restaurants, il valorise les produits de saison des maraîchers et éleveurs qu'il soutient depuis 10 ans. Il tâche de faire fonctionner un écosystème construit autour de 150 producteurs maraîchers, éleveurs ou paludiers. Donc les paludiers, c'est les producteurs de sel. Mon projet initial n'étant pas de faire de la restauration, mais de valoriser la paysannerie. Ma conception du restaurant est qu'il est avant tout le débouché d'un projet agricole, défend-il avec clarté. Dans ces établissements, aucun produit transformé, que du frais et du brut de saison, en approvisionnement direct. Charge aux cuisiniers de travailler des carcasses entières, des légumes bruts, de l'os jusqu'à la fane, afin qu'agriculteurs et clients y trouvent leur compte. Au fil de ces rencontres, il mesure la force de ceux qui soutiennent une agriculture paysanne respectueuse de l'environnement et des savoir-faire traditionnels, valorisant les races locales, les semences paysannes. Tous, dit-il, m'ont parlé de leur difficulté à résister à des systèmes qui broyaient leur vision du monde. Il fallait donc trouver de nouvelles façons de travailler avec eux. Avec Grégoire Desnoulé, qui fut son premier maraîcher, ils ont œuvré pour la réhabilitation et l'entretien de la lande côtière de Pleumeur en Bretagne, en créant une mare, en plantant 2000 arbres fruitiers et en faisant le pari de l'autonomie grâce au maraîchage, à l'élevage au vin et bien sûr à la restauration. Voilà une belle façon de voir les choses, à la fois pour notre alimentation et pour le respect des paysans, des producteurs et de la nature à la fois, et en faisant vivre des gens qui, on l'a vu l'autre jour, par ailleurs, ont énormément de mal à vivre correctement. Alors, un exemple qui a été trouvé dans mes lectures, l'abbaye bénédictine de la Pierre qui vire, ça doit être en Bourgogne, je crois, ou dans le Beaujolais, donc en Bourgogne. Et cette abbaye a choisi de vivre de manière écologique. Les moines ont investi dans le respect de l'environnement de manière ingénieuse. Ils entretiennent aussi et transmettent leur savoir-faire à qui le souhaite. Avec des moyens modernes, ils arrivent finalement à faire dériver un peu de l'eau du Trinquelin, c'est un petit cours d'eau qui passe chez eux, jusqu'à une petite maison dans laquelle ils ont construit en 1969 une usine hydroélectrique. Le monastère devient alors autonome en électricité qu'il produit grâce au cycle de l'eau, sans émettre aucun gaz à effet de serre. Et ils n'ont pas oublié les poissons qui évitent le canal via une passe à poissons située en amont. Dehors, c'est un fourmillement d'installations écologiques et intelligentes. Il y a des ruches qui contribuent au bon déroulement de la pollinisation. Les jardins filtrants aident à la fertilisation des sols. La pépinière accompagne la croissance des pousses. Et clou du spectacle, le jardin de permaculture est une œuvre d'art en forme de mandala. Ce jardin donne des graines et des plantes aromatiques qu'ils vendent à une boutique pour des tisanes. Mais surtout, c'est le lieu de rencontre. Il crée du lien, il ouvre le monastère sur le monde, sur l'environnement local. Pour créer ce jardin, ils se sont donné beaucoup de mal. Le responsable s'est formé avec le parc du Morvan. Il a fait venir des gens qui savent greffer des arbres et aiment jardiner. Et c'est ainsi, par exemple, qu'un volontaire qui arrive du Togo pour un séjour de quelques semaines se forme, mais apporte aussi sa connaissance de l'utilisation du compost organique et aide au jardin qu'il considère comme respectueux de la terre et de la nature. Donc voilà. Alors, on a vu, c'est dans le Morvan, donc c'est à la limite de la Bourgogne, mais c'est bien... ça doit être encore... Bon, au nord du Massif central, ça doit faire encore partie de la Bourgogne historique. Donc voilà, hein, cette abbaye qui s'est mise au respect de l'environnement et qui a mis en place un état d'esprit écologique et de le communiquer. Voilà pour mes lectures. Alors, le conseil de la semaine, on poursuit l'idée, on consomme local et de saison. J'ai vu l'autre jour des fraises d'Espagne dans une grande surface noyonnaise et j'ai eu une occasion, pas volontairement, d'en goûter. Franchement, attendons un mois pour avoir les fraises de Rimbercourt qui sont produites dans le Noyonnais et qui sont tellement plus goûteuses que ces fraises qui ont été conservées on ne sait comment, qui ont voyagé on ne sait comment, qui sont à peine mûres mais qui au bout de deux jours commencent à pourrir. Franchement, non, on peut se passer de fraises jusqu'au moment où on va en donner pendant deux ou trois mois en plein chez nous et dans nos jardins. Sinon, fleurissez votre jardin de fleurs mellifères, il est encore temps d'en repiquer. Et je voyais en venant à la radio, à pied bien sûr, eh bien, de plus en plus de gens mettent des fleurs sur le trottoir, sur le bordure de leur mur de maison. Alors ceux qui ont la chance que le béton ou le bitume ne viennent pas jusqu'au bord du mur, mais souvent il y a un petit espace, et au lieu d'y laisser pousser les mauvaises herbes et de les traiter avec un produit, ce qui est interdit... Alors, soit si c'est quasiment un peu de pelouse, on tombe, mais y planter des fleurs, c'est génial. J'ai vu notamment des gens qui venaient de mettre toute une rangée d'iris, et ces iris commencent à fleurir. Franchement, longer cette bordure d'iris, c'est agréable. Un peu plus loin, c'est des petites fleurs mauves dont je connais pas le nom, mais des fleurs qui couvrent, magnifiques. Dans une autre rue de Carlepont, c'est des giroflées tout le long de la maison. Elles sont en pleine floraison, puis ça sent très bon. Donc, fleurissez vos bordures de murs, côté rue. Tout le monde en profitera, vous les premiers, et les abeilles aussi. Ne dérangez pas les oiseaux. Mon voisin me disait, mais on ne voit plus de moineaux. Alors, je dis, c'est vrai, moi qui ai des dizaines de moineaux dans mon jardin, je ne les vois plus. Ils sont où les moineaux? Je pense qu'ils sont en train de couver, de faire leur nid, de nourrir. Les femelles, si c'est elles qui couvent les petits, je ne sais pas chez les moineaux si les parents alternent pour la couvade. Mais ça serait à creuser. Mais c'est peut-être pour ça qu'on en voit un peu moins. Par contre, je suis un peu inquiet parce que j'ai l'impression que toutes les hirondelles ne sont pas revenues à Carlepont. Oui. Voilà. En tout cas, ne dérangez pas les oiseaux. N'allez plus cafouiller dans vos haies. C'est pas le moment. Alors, à lire, à voir, écouter ou réécouter, j'ai trouvé une petite information sur un livre qui s'appelle « Six saisons en cuisine ». Adoptez les saisons, la bonne cuisine suivra, par Joshua McFadden. C'est aux éditions Marabout 2022. Ça coûte 35 €. J'avais écrit 354, mais ça m'étonnerait. 35 €. Plus de 200 recettes qui mettent les légumes à l'honneur sous toutes leurs formes, en entrée comme en dessert. C'est bon pour les flexitariens. Les flexitariens, c'est ceux qui équilibrent entre viande, légumes et autres aliments, ou les végétariens. Bon, ça ne doit pas être bon pour les véganes, parce que je suppose que dans les recettes, il y a de la graisse animale, du miel ou des choses comme ça. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai trouvé cette information intéressante. Cru, délicatement assaisonné, grillé ou mariné, cuisinez-les de la feuille à la racine, donc on ne perd rien. Attention, parce que la rhubarbe, on ne mange pas les feuilles. Là, ce n'est pas bon, c'est toxique. Oui. On ne peut pas toujours manger de la feuille à la racine. Oui, une carotte, on peut manger de la feuille à la racine. Un radis aussi. Feuille de radis dans la soupe, c'est très bon. Mais ce n'est pas valable pour tout, il faut faire attention quand même. Donc, naviguer entre sucré, épicé, crémeux, crémeux, donc voilà pourquoi ça ne peut pas être conseillé aux véganes, et croquant, entre pâte carbonara au petit pois, soupe à la crème de céleri, gratin de thon et courge, tarte carotte et pécan, etc. Transformez vos légumes ordinaires en plats extraordinaires. Alors, il y a toujours les émissions de France Inter, mais ça, on en a parlé souvent. Et il est temps largement de dire à Edwige bonne émission. Tout à l'heure, le jardin de Radio Puisalène. La semaine prochaine, on repasse l'émission et dans 15 jours, on se retrouve pour de nouvelles nouvelles, de nouvelles brèves et peut-être un dossier qui vivra verra.
Merci Xavier pour toutes ces bonnes informations sur l'antenne de Radio Pisalène. À la semaine prochaine. Merci.